Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons notre série concernant le retour du Christ qui implique l'évangélisation. Nous en sommes à notre 13e étude. Le thème pour aujourd'hui sera, premièrement, la certitude. Et deuxièmement, les ennemis du chrétien. La Bible dit dans la première épître de Saint Jean, chapitre 5, verset 13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Beaucoup de personnes ont des doutes et des incertitudes concernant la vie chrétienne. Beaucoup de ces chrétiens très sincères, qui semblent ne posséder ni la joie ni l'assurance de la vie en Dieu, car ils n'ont pas compris une vérité fondamentale de l'expérience chrétienne. Employons ce CD à résumer cette expérience. Nous avons vu ce que signifie se repentir, avoir la foi et naître de nouveau. Maintenant, comment puis-je être sûr que tout ceci m'est arrivé? Bien des gens à qui j'ai affaire se sont repentis, ils ont cru et sont nés de nouveau, mais il leur manque souvent l'assurance de leur conversion. Repassons maintenant quelques-unes des choses que nous avons apprises. Tout d'abord, devenir chrétien peut représenter une expérience précise dans notre vie ou être le point culminant d'une évolution spirituelle, consciente ou non. Ne vous méprenez pas sur ce que je dis. On ne devient pas chrétien par la science ou la culture. Il y a quelques années, un grand prédicateur déclarait « Nous devons orienter l'éducation religieuse de notre jeunesse de telle manière qu'elle ait l'impression d'avoir toujours été chrétienne. » Ce principe a été trop souvent suivi, si bien que beaucoup de personnes ont manqué l'essentiel de l'expérience chrétienne parce que l'éducation religieuse en avait pris la place. Le professeur Starbuck, un psychologue de premier plan, observait que généralement les serviteurs de Dieu se recrutaient parmi ceux qui avaient eu une expérience vitale de la conversion. Il remarquait aussi que ceux qui avaient une conception claire de ce que signifie la conversion provenaient principalement de milieux simples où ils n'avaient reçu qu'une éducation religieuse élémentaire et incomplète. Voyez-vous, ceci n'est pas une critique à l'encontre de l'éducation religieuse, pas du tout, mais de l'usage qu'on en fait en la substituant à l'expérience de la nouvelle naissance. Jésus-Christ déclarait à l'un des hommes les plus religieux de son temps, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Les profondes connaissances religieuses de Nicodème ne pouvaient remplacer la nouvelle naissance et nous n'avons pas dépassé ce stade à notre époque. Il est vrai que des milliers de chrétiens ne savent ni le jour ni l'heure exacte où ils sont venus à Christ. Leur foi et leur vie témoignent que consciemment ou inconsciemment, ils se sont convertis à Christ. Qu'ils se le rappellent d'une façon précise ou non, il y a eu un moment où ils franchirent la frontière entre la mort et la vie. Chaque chrétien a probablement éprouvé des doutes et de l'incertitude quant à son expérience religieuse. Lorsque Moïse monta sur le mont Sinaï, et ceci pour recevoir des mains de Dieu les tables de la loi, il ne fut plus visible pendant un bon moment, et ceci aux yeux des Hébreux qui attendaient anxieusement son retour. Mais finalement, ils se mirent à douter et se dirent « Oh là là, ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Leur apostasie résulta de leurs doutes et de leur incertitude. Cette terrible incertitude qui hante tant d'âmes provient de l'ignorance de ce que représente l'expérience religieuse véritable. Beaucoup semblent ne pas comprendre la nature de l'expérience chrétienne, tandis que d'autres, mal informés, recherchent ce que l'Écriture sainte ne nous dit pas de rechercher. Voyez-vous, le mot « foi » en relation avec le salut de l'homme est mentionné plus de 300 fois dans le Nouveau Testament. Et souvent ailleurs, il est sous-entendu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Il dit encore « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » C'est parce que nous avons confondu le mot « foi » et le mot « sentiment » que beaucoup de chrétiens éprouvent des difficultés et de l'incertitude. La foi implique toujours un objet, c'est-à-dire que si nous croyons, nous devons croire en quelque chose. Et ce quelque chose, je l'appelle le fait. Il y a trois mots et qu'il faut toujours laisser dans le même ordre. Ils nous permettent de bannir l'incertitude et d'avoir une vie chrétienne stable. Ces trois mots sont « fait »,« foi » et « sentiment ». Les placer dans cet ordre est absolument essentiel. Si vous les confondez, si vous en supprimez un ou en ajouter un autre, eh bien, vous vous perdrez dans le bourbier du désespoir. Vous continuerez à tâtonner dans une demi-obscurité sans la joie et sans la confiance de celui qui peut dire « Je sais en qui j'ai cru ». Donc, si vous êtes sauvé du péché, vous êtes sauvé par une foi personnelle en l'évangile de Christ révélé dans la Bible. Bien que cela puisse vous paraître au premier abord dogmatique et exclusif, le fait est qu'il n'y a pas d'autre chemin. La Bible dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les saintes Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les saintes Écritures. » La Bible dit que nous sommes sauvés quand nous mettons notre foi dans ce fait objectif. L'œuvre de Christ est un fait, sa croix est un fait, son tombeau est un fait, et sa résurrection est également un fait. Donc, il est impossible d'appeler quoi que ce soit à l'existence simplement en y croyant. Voyez-vous, l'Évangile ne devient pas une réalité parce que des hommes y ont cru. Le tombeau ne fut pas vidé de son contenu en ce premier matin de Pâques parce que quelques fidèles y crurent. Non, 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 le fait précède toujours la foi. Psychologiquement, nous sommes incapables de croire sans donner un objet à notre foi. La Bible ne nous demande pas de croire quelque chose d'incroyable, mais d'accepter un fait historique qui, en réalité, domine toute l'histoire. Donc, elle vous demande de croire que l'œuvre de Christ accomplie pour le péché et pour les pécheurs est efficace pour tous ceux qui confient leur âme à Jésus-Christ. Croire en lui pour votre salut éternel, c'est donc de mettre votre confiance dans un fait réel. La foi est dans l'ordre le deuxième de ces trois mots. Oui, la foi est rationnellement impossible là où il n'y a rien à croire. La foi doit avoir un objet. L'objet de la foi chrétienne, c'est Christ. Avoir la foi signifie plus qu'un assentiment intellectuel aux exigences de Christ. La foi engage la volonté. La foi demande l'action. Si nous croyons vraiment, alors nous vivrons. La foi sans les œuvres est morte. La foi signifie réellement une capitulation à la volonté de Christ. Elle signifie une prise de conscience du péché et un retour à Christ. Nous ne connaissons pas Christ par les cinq sens physiques, mais par le sixième sens que Dieu a donné à chaque homme, donc, et cette faculté est de croire. Je répète, la foi signifie réellement une capitulation à la volonté de Christ. Elle signifie une prise de conscience du péché et un retour à Christ. Nous ne connaissons pas Christ simplement par les cinq sens physiques, mais par le sixième sens que Dieu a donné à chaque homme, la faculté donc de croire. Le sentiment est le dernier de ces trois mots, et il doit rester le dernier dans votre pensée. Je suis persuadé que beaucoup d'angoisses et d'incertitudes religieuses de chercheurs sincères et honnêtes proviennent de l'idée préconçue qu'il faut être dans un état particulier d'émotion pour se convertir. Ceux qui cherchent le salut tel qu'il est présenté par les Écritures saintes désireront savoir quelle sorte d'expérience la Bible nous amène à faire. Je m'adresse à ceux qui ont souvent manifesté le désir de se convertir dans une réunion ou après une réunion ou qui peut-être se sont agenouillés même à côté de leur poste de radio ou du CD quand une étude évangélique les invitait à recevoir Christ. Vous avez entendu le message, vous avez compris que vous étiez un pécheur ayant besoin d'un sauveur. Vous avez reconnu que votre vie était un ouvrage. Vous avez essayé tous les moyens humains pour vous améliorer ou pour vous réformer. Mais vous avez échoué. Eh oui, et dans cette condition désespérée et perdue, vous avez regardé à Christ pour votre salut. Vous avez cru qu'il aurait, ou qu'il pouvait surtout, et qu'il voulait vous sauver vraiment. Et vous avez souvent entendu l'invitation qu'il adresse aux pécheurs, quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Vous avez lu les promesses je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Je répète, « Venez à moi, est-il dit, et vous tous venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous avez également lu les promesses suivantes, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc, en lisant soigneusement le Nouveau Testament, afin de découvrir quelle sorte d'expérience vous pouvez vous attendre à faire, je n'en ai trouvé qu'une. Il n'y a qu'une seule chose que vous puissiez rechercher, il n'y a qu'une seule ou qu'un seul sentiment auquel vous puissiez vous attendre, c'est la foi. Croire est une expérience, bien que beaucoup y cherchent quelque chose de plus, une sensation physique ou encore une manifestation extraordinaire. On entend souvent dire qu'il faut rechercher de pareilles sensations, mais la Bible déclare que l'homme est justifié par la foi et non par le sentiment. L'homme est sauvé en croyant à l'œuvre accomplie par Christ sur la croix et non pas par une sensation physique ou une extase religieuse et encore moins en se roulant par terre. Mais me direz-vous, qu'en est-il des sentiments? N'ont-ils aucune place dans la foi qui sauve? Certes, ils en ont une, mais ce ne sont pas eux qui nous sauvent. Quels que soient les sentiments que l'on puisse éprouver, ils ne sont que la conséquence de la foi qui sauve, mais ils n'ont en eux-mêmes aucune vertu pour le salut. Quand je saisis un peu d'amour de Christ pour moi, pécheur, je réponds en l'aimant à mon tour. Et l'amour est un sentiment, mais l'amour pour Christ est au-dessus, carrément au-dessus de toute manifestation des sens inhérentes à l'amour humain. C'est un amour exempt de tout égoïsme. La Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. Oui, que l'amour parfait bannit la crainte. Et ceux qui aiment Christ ont en lui cette confiance qui éloigne d'eux toute crainte. Quand je comprends que Christ, par son sacrifice, a remporté une victoire décisive sur la mort et le péché, je perds toute crainte de la mort. La Bible dit, il y a également participé lui-même, oui, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Assurément, la crainte est aussi un sentiment, d'accord? Surmonter la crainte par l'assurance et la confiance, même en face de la mort, est un sentiment et une expérience. Mais je le répète, ce n'est pas le sentiment d'assurance et de confiance qui nous sauve. L'assurance et la confiance sont simplement le résultat de notre foi en Christ. Voir ou avoir une conscience chargée et une expérience, les psychologues peuvent la définir comme un complexe de culpabilité et chercher à le chasser par des raisonnements. Mais lorsque la conscience a été réveillée par la loi de Dieu, alors, lorsque cette conscience a été réveillée, qu'un raisonnement ne peut l'apaiser. Oui, beaucoup de criminels se sont livrés eux-mêmes à la justice, car voyez-vous, les accusations de leur conscience étaient pires pour eux que les barreaux de la prison. La Bible déclare que Christ purifie la conscience, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache qui est répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiant et procurant la pureté de la chair, alors combien plus le sang de Jésus-Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Être purifié d'une conscience chargée et être libéré de ces accusations constantes est une expérience, mais ce n'est pas la purification de la conscience qui vous sauve, avez-vous compris? C'est la foi en Christ seul qui sauve, et la purification de la conscience est simplement le résultat d'une relation tout à fait normale avec Dieu. La joie est donc un sentiment. Oui, la paix intérieure est un sentiment. L'amour pour autrui est également un sentiment. L'intérêt pour les hommes perdus est un autre sentiment. Quelqu'un pourrait dire enfin « Je crois aux faits historiques de l'Évangile ». Mais je ne suis pas encore sauvé. C'est possible, car la foi qui sauve a une qualité distincte. Elle produit l'obéissance, elle influence la manière de vivre. À ceux qui ont mis leur confiance en Christ pour leur salut, cette foi donne le désir de vivre extérieurement l'expérience intérieure de la foi. La foi a pour conséquence la sainteté, l'abandon de la vie à Dieu. Que cette foi intellectuelle, cette foi de tradition que vous pouvez avoir, soit maintenant totalement abandonnée à Christ. Recherchez donc sincèrement son salut et sur l'autorité de la Bible, devenez un enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son saint nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Deuxièmement, nous avons les ennemis du chrétien. Ils ne sont pas rares du tout. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Éphésiens chapitre 6, verset 12. Maintenant que vous avez pris votre décision, que vous vous êtes converti, que vous êtes né de nouveau, que vous êtes justifié et que vous êtes un enfant de Dieu, que va-t-il se passer? Est-ce vraiment tout? Tout est-il fini une fois votre décision prise? Ai-je encore des responsabilités? Demandez-vous. Ah oui, et comment? Vous ne faites que commencer la vie chrétienne. Vous venez de naître dans un monde nouveau, le monde spirituel. Tout est nouveau. Vous êtes un bébé spirituel. Vous avez besoin de tendresse, d'amour et de soins. Vous avez besoin qu'on vous nourrisse. Il vous faut une protection. C'est une des raisons pour lesquelles Christ a établi l'Église. Vous ne pouvez vivre seul la vie chrétienne. Il vous faut l'aide d'une communauté. Chers amis, peut-être avez-vous déjà découvert que vous avez des ennemis dangereux qui, par tous les moyens, tentent de vous empêcher de vivre une vie chrétienne. Au moment même de votre décision, ces ennemis étaient déjà au travail, soit pour vous tenter de commettre un péché, ou pour vous faire passer par un moment de dépression et de découragement. Tout est merveilleux et passionnant au moment où vous vous décidez pour Christ. Mais il est naturel aussi d'avoir des doutes, des problèmes, des questions, des tentations, des découragements. Chers amis, la Bible enseigne que toute votre vie, pendant toute votre vie, vous aurez à lutter contre trois ennemis. Vous devez vous y préparer. Ils doivent donc être repoussés. Considérons donc les ennemis que nous devons affronter. Démasquons-les pour savoir qui ils sont, ce qu'ils sont et comment ils opèrent. Le premier, c'est bien entendu le diable en personne. Nous avons déjà vu que le diable est une personne puissante qui s'oppose à Dieu et tente le peuple de Dieu. Bien qu'il ait été battu à la croix, il a encore la puissance d'influencer les hommes et les femmes pour le mal. La Bible l'appelle le malin, le démon, le meurtrier, le menteur et le père du mensonge, un lion cherchant à dévorer, le serpent ancien et l'accusateur de nos frères et sœurs. Au moment où vous vous êtes décidé pour Christ, le diable a subi une terrible défaite et il en est évidemment furieux. Depuis lors, il vous tente et essaye de vous faire tomber dans le péché. Ne vous alarmez pas, il ne peut vous ravir votre salut. Ne le laissez pas vous enlever votre assurance et votre victoire. Il fait tout, c'est d'accord, tout ce qui est en son pouvoir pour semer des doutes dans votre esprit quant à la réalité de votre conversion. N'essayez pas de raisonner avec lui, car il est le plus grand argumentateur de tous les temps. Vous serez mis à l'épreuve dès la première tentation. Rappelez-vous qu'il ne faut pas mettre sa confiance dans les sentiments, car les sentiments sont aussi instables qu'une girouette dans la tempête. Satan cherchera probablement à vous remplir d'orgueil pour que vous mettiez votre confiance en vos capacités, vos ambitions et dans vos désirs. Et puis, à la première occasion, il mettra la haine dans votre cœur. Il vous incitera à dire des choses désobligeantes et mesquines sur ceux qui vous entourent. Il mettra de l'envie, du mécontentement et de la rancune dans votre cœur. Ou encore, il vous poussera au mensonge et, sans vous en douter, à l'hypocrisie. Le mensonge est un des pires péchés et il peut être commis en pensée, en parole ou en acte. C'est ce que vous avez appris dans ces leçons. Tout ce qui est destiné à tromper une autre personne est mensonge. Le diable s'efforcera de faire de vous un menteur. Il essayera aussi de vous employer à tenter d'autres personnes, à conduire d'autres chrétiens hors du bon chemin. Si vous n'êtes pas vigilant, vous vous trouverez bientôt au service du diable, et il est puissant, doucereux, rusé, astucieux, celui que l'Écriture sainte appelle le Dieu de ce siècle, le prince de ce monde, et même le prince de la puissance de l'air. Mais alors, direz-vous, comment puis-je le vaincre? Comment m'en détourner? Existe-t-il une délivrance? Aucune tentation ne vous est survenue qui ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dieu dit dans ce passage qu'il a préparé un moyen d'en sortir. Rappelez-vous ceci. Si vous êtes tenté, ce n'est pas tout simplement un signe que votre vie n'est pas en règle avec Dieu. Au contraire, c'est un signe qu'elle est bel et bien. La tentation n'est pas un péché en soi. Rappelez-vous aussi que jamais Dieu ne tente ses propres enfants ni ne les fait douter. Toutes les tentations et tous les doutes viennent évidemment du diable. Rappelez-vous également que le diable ne peut que tenter. Il n'a pas le pouvoir de vous contraindre, de vous forcer à céder à la tentation. N'oubliez pas que Satan a déjà été vaincu par Christ à la croix. Sa force est sans effet dans la vie d'un chrétien pleinement confiant et pleinement soumis et qui dépend entièrement de Dieu. La Bible nous dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Mais avant cela, il est écrit « Soumettez-vous à Dieu ». Si vous êtes totalement soumis, si vous avez capitulé, et céder 100% à Christ, alors seulement vous pouvez résister au diable, et la Bible promet qu'il fuira loin de vous. Le diable tremble quand vous priez. Il subit une défaite lorsque vous citez ou lisez un passage de la Bible, et quand vous lui résistez, il s'enfuira. Vous pouvez faire fuir le diable loin de vous 24 heures par jour, simplement par la puissance de Christ. Votre second ennemi est le monde. Le monde tend à nous inciter au péché. Mauvaise compagnie, plaisir, mode, opinion et ambition mondaine. Votre expérience de la nouvelle naissance vous a fait découvrir que vos plaisirs se trouvent désormais dans une sphère plus haute et plus lumineuse. Beaucoup de non-chrétiens s'imaginent que la vie chrétienne est une série de règles, de tabous, de vétos et de défenses. C'est encore là un mensonge du diable. La vie chrétienne n'est pas une série d'ordres négatifs, mais au contraire, une suite d'impératifs. Vous êtes si occupé par le travail de Christ et si complètement satisfait des choses de Christ que vous n'avez plus le temps pour celles du monde. Supposez que quelqu'un m'offre un plat de reste assez peu appétissant alors que je viens de manger un morceau de filet. Je dirai non merci, je suis déjà rassasié. Donc, mes chers chrétiens, c'est là le secret. Vous êtes si remplis de Christ, si épris des choses de Dieu, que vous n'avez pas le temps pour les plaisirs coupables du monde. La question de la mondanité a cependant été fort mal comprise par des milliers de chrétiens. et cette incompréhension demande une petite mise au point, car la mondanité est probablement un des plus grands obstacles que rencontre la jeune ou le jeune chrétien qui est inexpérimenté. Le docteur Griffith Thomas a dit « Il y a un certain nombre de choses dans la vie journalière qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais qui ont tendance à devenir péché si on en abuse. » L'abus signifie littéralement un emploi excessif et, dans beaucoup de cas, l'abus de choses permises devient un péché. Le plaisir en lui-même est totalement légitime, mais il est illégitime si on en abuse trop. L'ambition est une preuve de caractère, d'accord, mais elle doit être dirigée vers des fins licites et exercée dans des proportions convenables. Nos occupations journalières, la lecture, la mode, la camaraderie et d'autres aspects semblables dans notre vie de tous les jours, sont tous légitimes et nécessaires, mais peuvent facilement devenir illicites, inutiles et même nuisibles. Pensez par exemple aux nécessités de la vie, mais cela peut dégénérer en soucis. Et comme Christ nous le rappelle dans la parabole du semeur, les soucis de la vie étouffent la semence spirituelle dans le cœur. Gagner de l'argent est nécessaire pour la vie de chaque jour, mais la trop grande préoccupation du gain dégénère souvent en amour de l'argent. Et l'appât trompeur de la richesse pénètre dans le cœur et entrave la vie spirituelle. Cependant, dans certaines circonstances de notre vie, de cette vie moderne d'aujourd'hui, on peut bien le dire, il peut y avoir des problèmes subtils. Beaucoup de jeunes viennent nous demander « Ceci est-il mauvais ou cela est-il permis ?» Est-ce mal ? Une simple question posée sérieusement et dans un esprit de prière résoudra environ 90% de ces problèmes. Et cette question la voici. Que ferait Jésus-Christ à ma place ? Ou encore, puis-je demander sa bénédiction dans cette chose particulière ? Que penserait Jésus-Christ de mes amusements, de mes récréations? Ah oui, il faut bien le dire, je répète. Que penserait par exemple notre Seigneur de certains de mes amusements, de certains de mes récréations, de mes jeux, de mes camarades et de mes soirées dans des discos où on se drogue? Il ne peut y avoir de marchandage ou de compromis. Je pense que vous serez d'accord. Il nous faut prendre position carrément franchement pour Christ. Cela ne signifie pas qu'en société nous devions nous croire supérieurs. Pas du tout. Ce qui serait tout de même une preuve de beaucoup d'orgueil spirituel. Mais il y a aujourd'hui tant de chrétiens de nom qui marchent la main dans la main avec le monde, qu'on ne peut plus distinguer le chrétien du pécheur. Chers amis, il ne devrait jamais en être ainsi. Le désir de la chair, les désirs de notre chair sont le troisième ennemi que nous devrons affronter. La chair est cette tendance au mal de votre être intérieur. Même après votre conversion, vos désirs anciens et pécheurs réapparaîtront parfois, évidemment. Vous vous effrayerez peut-être et vous vous demanderez d'où ils viennent. La Bible dit que notre vieille nature, avec toute sa corruption, ou encore, elle est encore présente, ah oui, et que toutes ces tentations ne proviennent que d'elle. Cette malheureuse disposition au péché est toujours présente pour nous faire simplement trébucher. Et là, c'est le diable qui gagne. Donc, la guerre doit être déclarée. Deux natures s'affrontent en nous, chacune luttant pour avoir la victoire. La Bible nous dit « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. » Donc, cette vieille nature ne saurait plaire à Dieu. Elle ne peut ni ne se convertir, ni s'améliorer. Remercions donc Dieu, car quand Jésus-Christ mourut, notre vieille nature a été crucifiée avec lui. Désormais, nous pouvons nous regarder comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Et par la foi, cela devient une réalité. Gloire à Dieu. Cependant, il nous faut distinguer avec soin entre ce qui est emploi et abus, entre ce qui est licite et illicite. Certains désirs sont coupables, d'autres au contraire ne le sont pas. Le docteur Thomas a dit « Le sens original du mot convoitise est « désir ardent » et pas nécessairement « désir coupable » car certains besoins de notre nature physique tels que la faim et la soif que nous avons en commun, et ceci avec le monde évidemment, sont en eux-mêmes totalement naturels et non coupables. Ce n'est que leur abus qui est mauvais. La faim est un désir naturel, mais la gourmandise est un désir coupable. La soif est un désir naturel. L'intempérance de boire 10 bières par jour est un désir coupable. La paresse est également un désir coupable. On ne croit pas cela, mais c'est vrai. Le mariage est conforme à la volonté de Dieu et aux lois de la nature humaine, physique, mentale et sociale. Mais par contre, l'adultère est forcément un péché opposé à la volonté de Dieu et à tout ce qui, dans le corps, l'esprit et le cœur, est pur. Il y a encore d'autres convoitises de la chair qui sont essentiellement coupables, telles par exemple celles d'assouvir à tout prix notre haine et notre vengeance. Il faut donc distinguer avec soin entre la convoitise qui est simplement un désir ardent et la même convoitise qui peut être un désir coupable. Les péchés de la chair sont, dans un certain sens, les plus terribles de tous, car il représente l'aspiration de la nature humaine à faire le mal. Ni le diable, ni le monde, ni même notre cœur mauvais ne peuvent nous contraindre au péché. C'est par notre consentement et par notre libre volonté que nous péchons. Et c'est là qu'intervient notre nature mauvaise avec sa terrible puissance et sa tendance au mal. Chers amis, comme nous sommes tous différents les uns des autres, car nous ne sommes pas ni des robots ni des humanoïdes, alors une femme qui a par nature un fort tempérament aura plus à lutter contre certaines tentations, et un homme également. Ce qui est essentiel, c'est de ne pas succomber à la tentation. Et c'est pareil pour un alcoolique. Il faut, dans ce cas, vous mettre sous la protection du sang de Jésus-Christ, et si nécessaire, pourquoi pas, demander l'aide, soit du pasteur, ou d'un frère ou d'une sœur chrétienne en qui vous avez confiance. L'apôtre Paul a dit qu'il n'avait pas confiance en la chair. Je répète, saint Paul nous dit qu'il n'avait pas confiance en la chair. Et ailleurs, il déclare « N'ayez pas soin de la chair » et encore « Je traite durement mon corps. » Je traite durement mon corps. Évidemment, c'est plus facile que être dans une chaise à se balancer ou dans un hamac entre deux palmiers au soleil, que d'être obligé de travailler, évidemment. Mais notre devoir, c'est de travailler. Il faut payer l'appartement, l'assurance maladie, il faut payer tellement de choses aujourd'hui que nous ne pouvons pas nous permettre d'être paresseux. Ce n'est pas possible. Malheureusement, je le dis aussi pour moi, croyez-moi, ce n'est pas drôle du tout. Nous devons donc ainsi nous abandonner et nous remettre si complètement à Christ qu'il nous soit possible par la foi de regarder notre vieille nature comme étant morte au péché. Nos trois adversaires sont donc, comme nous l'avons compris, le diable, le monde et la chair. Notre attitude envers eux, en tant que chrétien, peut être résumée en un mot, c'est de renoncer. Renoncer à certaines tentations trop fortes. Il ne peut y avoir ni marchandage, ni compromis, ni hésitation. Un absolu renoncement est la seule voie possible aux chrétiens pour obtenir une victoire totale. En ce qui concerne le diable, nous ne pouvons lui résister que si nous nous soumettons à Dieu. En ce qui concerne le monde, la Bible dit « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Christ ». Enfin, en ce qui concerne la chair, il est écrit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Il est une glorieuse nouvelle pour vous qui vous avez déjà été livrés, donc dans des batailles, et que vous avez rencontré toutes ces tentations. Il est dit dans Romains chapitre 13, il ne vous est pas demandé de lutter seul. La Bible dit que par l'Esprit Saint, vous devez faire mourir les actions du corps. Rappelez-vous que Jésus-Christ a promis de ne jamais vous abandonner. Je répète, il est une glorieuse nouvelle pour vous qui avait déjà livré ses batailles et qui avait rencontré toutes ces tentations, que il ne vous ait pas demandé de lutter tout seul. Dans Romains chapitre 8, verset 13, la Bible dit que par l'Esprit Saint, vous devez faire mourir les actions du corps. Donc, vous ne luttez plus tout seul, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Rappelez-vous donc que Christ a promis de ne jamais vous abandonner. Et rappelez-vous que Jésus-Christ a promis qu'après avoir quitté la terre, il nous enverrait quelqu'un d'autre. C'est la troisième personne de la Trinité. C'est tout simplement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est appelé le Consolateur, ce qui signifie réellement celui qui aide, qui secourt et qui prend soin, qui demeurerait éternellement avec nous. Jésus-Christ a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous, et je viendrai à vous dans la personne du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit est aujourd'hui l'être le plus puissant du monde. L'ère de l'Ancien Testament fut celle de Dieu le Père, et pendant que Jésus-Christ était sur la terre, ce fut le temps de Dieu le Fils. Mais maintenant, depuis le jour de la Pentecôte, nous vivons dans la dispensation du Saint-Esprit. La Bible dit qu'au moment où vous avez accepté Christ comme Sauveur, le Saint-Esprit est entré dans votre cœur. Votre corps est désormais le temple du Saint-Esprit qui est en vous. L'apôtre Paul nous avertit même que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais direz-vous, je ne sens rien dans mon cœur et je ne sens pas l'Esprit de Dieu en moi. Alors, ne vous occupez pas trop de vos sentiments, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas sauvé par vos sentiments. Que vous sentiez ou non l'Esprit Saint, acceptez-le simplement par la foi comme un fait réel. Il est en vous dès maintenant pour vous aider à vivre la vie chrétienne. Il est en vous afin de magnifier, de glorifier et d'exalter Christ, afin que vous viviez une vie heureuse, victorieuse et rayonnante qui honore notre Dieu et notre Sauveur. La Bible nous commande d'être remplis de l'Esprit Saint. Donc, si vous êtes remplis de l'Esprit Saint, vous produirez les fruits de l'Esprit Saint qui sont, je crois, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. Donc, être rempli du Saint-Esprit n'est pas une chose facultative. C'est un commandement auquel il faut tout simplement obéir. C'est un devoir à accomplir. Comment pouvez-vous savoir que vous êtes rempli du Saint-Esprit? Et comment pouvez-vous en être rempli? Y a-t-il quelques expériences émotives par lesquelles vous deviez passer? Non. Lorsque vous êtes pleinement purifié de tout péché connu, que vous vous êtes abandonné et donné entièrement à Christ, vous pouvez alors accepter par la foi, c'est une question de votre foi en Jésus-Christ, que vous êtes maintenant rempli de l'Esprit de Dieu qui vous a été promis. Cela signifie que vous lui abandonnez tout votre être et qu'il n'y a désormais plus que lui dans votre cœur et dans votre esprit. La consécration est réellement un abandon total, absolu, sans condition et irrévocable. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains chapitre 12, verset 1. Seul le chrétien consacré est rempli du Saint-Esprit peut avoir la victoire sur le monde, sur la chair et le diable. C'est le Saint-Esprit seul qui combattra pour vous. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Et c'est là une guerre spirituelle. Vous ne pouvez lutter contre ces trois ennemis avec des armes ordinaires. Nous ne serons complètement victorieux que si nous devenons des canaux par lesquels passe le Saint-Esprit qui combat pour nous. Ne refusez rien à Christ, qu'il soit le seul Seigneur et le seul Maître de votre vie. Il a dit, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Il veut être votre Maître et votre Seigneur. » Un jour, en s'amusant avec un vase de très grande valeur, un petit garçon mit la main dedans, mais il n'a pas pu la retirer. Son père essaya de l'aider de son mieux, mais en vain. Il pensait devoir casser ce vase très coûteux. Or, il lui vint une idée. Ah oui. Il dit, « Mon enfant, essaye encore une fois, mais cette fois-ci, ouvre ta main et tu tends tes doigts bien en avant, comme ceci. Et puis, tu retires ta main tranquillement. » Mais à son grand étonnement, le petit garçon lui répondit, « Oh non, je ne peux pas tendre mes doigts. Car si j'ouvrais la main, je lâcherais mon sou que j'ai pris dans la bourse de maman. » Vous souriez peut-être, mais des milliers d'entre nous sont comme ce petit garçon. Nous sommes tellement occupés à nous accrocher à nos pièces de monnaie sans valeur que nous ne pouvons accepter la libération. Je vous en supplie, laissez tomber la petite pièce, capitulez, laissez Dieu agir et réalisez le plan qu'il a pour votre vie. Ensuite, après, vous êtes donné entièrement à Christ, rappelez-vous que Dieu a accepté ce que vous lui avez donné. Ici, nous avons une nouvelle occasion d'exercer notre foi. « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, » est-il dit, « et vous êtes devenu, et vous êtes maintenant à lui, car vous êtes venu à lui, et il vous a reçu. » Le résultat de votre vie entièrement abandonnée, consacré maintenant et rempli du Saint-Esprit, sera un courage et une assurance que vous n'avez jamais connus auparavant. L'homme rempli du Saint-Esprit connaît la crainte de Dieu, mais il n'en connaît point d'autre. Toutes les autres craintes disparaissent. Il a un courage et une assurance surnaturelle pour prendre position pour Christ. Si vous parcourez le livre des Actes des Apôtres, vous trouverez le mot « assurance » qui est employé de nombreuses fois par les apôtres remplis du Saint-Esprit. Non seulement vous aurez de l'assurance, mais vous produirez les fruits de l'Esprit-Saint. Rappelez-vous que ces fruits de l'Esprit-Saint viennent vraiment de l'Esprit-Saint. Vous ne pouvez les produire vous-même. Ce sont des fruits surnaturels qui caractérisent votre vie de jour en jour et ils doivent être produits d'une façon surnaturelle. Il y aura donc l'amour. Le grand commandement que Jésus-Christ nous a laissé est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aimerez votre prochain d'un amour surnaturel, sans égard pour sa race, sa croyance ou ses convictions politiques. L'amertume, les querelles et l'envie cesseront, et l'amour fraternel prévaudra. Il y aura de la joie. Une des caractéristiques du chrétien est bien entendu la joie. Quelles que soient les circonstances, il a le cœur joyeux et le visage rayonnant. Tant de chrétiens ont une longue figure et ne reflètent pas du tout la gloire de Dieu. Voyez-vous, quand on rencontre un chrétien, il est facile de dire si oui ou non c'est un chrétien victorieux, spirituel et consacré. Un vrai chrétien devrait être détendu et rayonnant, capable d'illuminer et non de déprimer son entourage. La Bible dit « La joie de l'Éternel sera votre force ». Il y aura la paix. Et saint Paul a dit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse peut-être, mais non pas dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. » Nous pourrions parcourir tout le reste de cette liste surnaturelle. Patience, douceur, bonté, foi, humilité, tempérance, et voir comment tous ces fruits mûrissent dans la vie de ceux qui sont réellement consacrés et remplis du Saint-Esprit. Chers amis, avant de terminer par la prière, je voudrais dire que la victoire, elle est à vous. Saisissez-la, c'est votre droit d'aînesse. Vous n'avez plus aucune raison de subir encore une défaite. Vous pouvez vivre d'une manière grande et belle. Ce qu'il y a de meilleur est pour vous, maintenant. La vie peut être une aventure magnifique, glorieuse et passionnante. Vous désirerez vivre tellement chaque minute que vous regretterez d'aller vous coucher le soir. Et vous vous réjouirez de vous lever chaque matin pour vivre un nouveau jour pour Jésus-Christ. Car chaque jour sera merveilleux et passionnant, rempli d'occasions d'être utile, rempli de moments à passer avec Dieu, rempli de la connaissance que vous êtes pour toujours en sécurité en Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons maintenant prier ensemble. Seigneur, tu as encore daigné nous supporter, nous protéger et nous bénir. Tu as été plus indulgent envers nous que ne peut l'être pour son enfant la plus tendre des mères. Comment ton support ne nous apprend-il pas à être plus indulgents envers nos semblables? Pourquoi nos relations avec eux sont-elles entachées de tant d'égoïsme, de tant de sévérité et souvent d'impatience? C'est que nos cœurs sont insensibles à tout ce que tu fais pour nous. C'est que nous pensons avoir mérité toutes les faveurs que nous recevons de ta bonté. L'indulgence envers autrui n'est qu'un sentiment de justice envers nous-mêmes, mais nous voyons les défauts de nos frères, de nos sœurs. Nous voyons leurs fautes, leurs omissions, et nous ne voyons pas les nôtres. Nous devons donc, pour apprendre à être moins sévères, nous rappeler sans cesse combien tu es miséricordieux pour nous. Oh, que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre celui ou contre celle qui a failli. Que celui qui se sent innocent de toute offense envers Dieu condamne sévèrement les torts de son frère ou de sa sœur, et que celui qui ne manque à aucun de ses devoirs accuse hautement celui qui oublie les siens. Mais si une telle sainteté était donnée à une âme dès ici-bas, elle serait, Seigneur, indulgente, elle serait pleine de support, car étant sainte comme tu es saint, elle aurait pitié des âmes moins bénies qu'elle, comme toi, tu as pitié de nous, tu as compassion de nous. L'indulgence est donc un des fruits de la foi, non l'indulgence qui naît de l'indifférence, oh non, ou d'une lâche complaisance pour le mal, mais l'indulgence que produit la charité, la compassion pour nos semblables, celle qui procède du désir de marcher sur les traces de notre divin modèle et surtout de la pensée que puisque lui, l'image du Dieu invisible, a daigné souffrir pour nous racheter de la condamnation, nous devons supporter avec douleur ce qui, de la part de nos semblables ou en eux, peut nous être pénible. Seigneur, que nous nous remettions entre tes mains avec humilité et aussi avec une confiance sans borne, et que nous nous endormions en toi. Amen. Et chers amis, merci de tout cœur pour l'intérêt que vous portez à ces études. Nous aurons donc encore une étude sur cette série. Ensuite, nous aurons une étude très importante, je dis bien très importante, concernant un thème, je pense même le plus important de tous, qui est la prière. Vous apprendrez beaucoup de choses. Alors, à bientôt à nouveau, et merci pour votre fidélité et pour votre intérêt. À bientôt, très chers amis.